Donc on est sur, on va introduire le module 2 et présenter le matériau sur lequel on va travailler dans les ateliers. Donc la thématique du module 2, c'est autour des nouvelles dimensions collectives du travail hors classe, notamment en ATP. Alors quelques précisions peut-être sur l'usage des matériaux par rapport aussi bien à ce qu'on a vu hier lors de la dernière séquence en collectif et ce qu'on va présenter ce matin. Le but du jeu, bien entendu, vous l'avez compris, c'est pas de repérer les bonnes ou les mauvaises pratiques, mais bien d'essayer aussi bien dans le travail qu'on fait avec les protagonistes concernés que dans le travail qu'on peut faire à partir de ces matériaux en formation. Je dirais de mettre en mouvement à la fois les contradictions, mais aussi les potentialités du métier en vue de maîtriser des situations professionnelles plus ou moins problématiques, plus ou moins nouvelles, plus ou moins inédites, etc. Donc je voulais insister sur cette dimension de développement, notamment par rapport à ce qu'on a vu hier avec le collègue de SVT. Ce qu'on vous montre, c'est des instantanés qui s'inscrivent dans un processus. Et c'est ça qui est important à voir. Ça s'inscrit dans une histoire, il y a un avant et un après. Et c'est bien ça qui nous intéresse, plutôt que de repérer à l'instant T s'il y a écart ou pas, ce qui pourrait être des bonnes pratiques ou des pratiques qu'on pourrait prescrire ou au contraire proscrire, etc. C'est pas du tout dans cet esprit qu'on utilise, bien entendu, les matériaux. Donc ça va être tout particulièrement le cas aussi des extraits qu'on va vous montrer ce matin, puisque on va travailler successivement sur des extraits d'autoconfrontation de collègues qui ont en charge l'ATP et qui essaient de se débrouiller comme ils le peuvent, avec une sorte d'efficacité malgré tout, à partir, comme je disais hier, de prescriptions qui sont très peu lisibles du point de vue à la fois de ce qu'il y a à faire et de comment le faire. Et du coup, qui vont importer des manières de faire, on pourrait dire d'autres genres d'activités, et qui les conduisent à avoir des modes de fonctionnement très différents par rapport à l'organisation du travail qu'ils font en ATP. Donc il y a un contraste que vous verrez entre les choix que font ces trois collègues sur la façon de conduire une séance d'ATP. Mais ces choix sont encore une fois guidés pour chacun d'entre eux par une sorte d'efficacité malgré tout, qu'il s'agit de questionner bien entendu, de se poser la question de savoir comment on peut les aider à réactualiser les compromis qu'ils font sur d'autres bases, plus efficaces à la fois pour les élèves et pour eux. Mais c'est bien sûr de cette façon-là qu'on vous propose d'interroger les matériaux. Donc il y aura des extraits d'autoconfrontation et des extraits d'instruction sosie. Un extrait d'instruction sosie, si mes souvenirs sont bons. Donc je rappelle très vite la technique de l'instruction sosie. C'est un outil utilisé en analyse du travail qui consiste à donner à un professionnel la consigne suivante. Tu imagines que je suis ton sosie. Je dois te remplacer demain dans ton travail, donc dans ta classe ou dans ta séance d'ATP. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme consigne pour que personne ne s'aperçoive de la substitution? Donc c'est un outil qui vise à creuser dans l'épaisseur du métier, dans les sous-entendus du métier, de façon à essayer de faire parler le métier, justement, et pas seulement le professionnel qui parle de son métier. Voilà, donc c'était ce petit préambule que je voulais faire pour bien préciser le cadre dans lequel on travaille et la façon dont le regard qu'on vous propose de porter sur les matériaux. Et Christine va poursuivre sur la thématique le travail hors la classe, les dimensions collectives du travail hors la classe.
Voilà, donc dans ce module, donc on a sélectionné trois extraits de Fred. Donc, trois extraits de Fred, Alban et Virginie. Donc, Frédéric, c'est un professeur de mathématiques. C'est lui qui a, dans ce collège, donc on est dans un collège marseillais, qui est bien sûr un collège ambition réussite. Fred, donc, est professeur de maths et c'est lui qui, dans sa lettre de mission, a notamment en charge la responsabilité du dispositif ATP. Donc, en fait, le travail qu'on conduit avec cette équipe depuis 2 ans sur cette question-là, c'est de regarder un petit peu effectivement comment ce dispositif s'organise, comment s'organise dans cet établissement l'aide aux devoirs et l'aide au travail personnel des élèves. Donc dans cette mission, non seulement il a pour responsabilité d'organiser ce dispositif, mais je l'ai eu là il y a 10 minutes au téléphone, il arrivait hier, il était à PACAM, donc il est lui aussi, il a aussi cette responsabilité-là de faire le lien avec les différentes associations, donc là tout à fait hors scolaire, de la prise en charge du travail avec les élèves. du quartier. Donc c'est lui qui a cette responsabilité-là, et c'est une responsabilité qui lui coûte énormément, parce qu'il y a 17 enseignants du collège qui sont engagés dans ce dispositif, et on verra, j'ai pris quelques extraits. Bon, les choses ne sont pas très simples, c'est un petit peu ce que je vous disais hier, les choses ne sont pas très simples, parce que, par exemple, les instructions au sosie que nous avons pu conduire, elles sont à la fois sur son activité, évidemment, d'enseignant présent dans le dispositif ATP, mais aussi d'enseignant dans la tâche et la fonction qu'il a de mobiliser une équipe et d'amener cette équipe à produire des documents et des ressources relativement à ce que c'est que aider un élève ou des élèves en difficulté. Donc là, c'est ce que je vous disais hier, hein, il est entre guillemets chef de projet, et il est confronté à toutes les difficultés que de mobiliser une équipe de 17 personnes autour d'un projet. Alban est néo-titulaire. Donc là, on verra un petit extrait de cette année où elle était deux, mais elle est néo-titulaire. Elle a, elle aussi, elle est rentrée dans le dispositif, elle est professeure référent. Donc l'année dernière, professeure référent néo-titulaire, elle sortait de l'UFM et elle a, elle, en responsabilité, la charge du DAI, c'est-à-dire dispositif d'accueil et d'intégration pour les enfants non francophones. Elle est professeure de lettres modernes et elle participe énormément, en tous les cas en charge, au dispositif ATP. Comme elle n'a, on le verra, hein, c'est ce qu'elle dira dans l'autoconfrontation, comme elle n'a très peu, que très peu d'idées de ce qu'il faut faire dans ce dispositif, en fait, elle colle complètement à la propagande de Fred, et elle essaye de rapporter et de reporter la bonne parole, voilà, de son mentor. Et Virginie, qui est une collègue de PS, elle n'est pas professeure référent, c'est quelqu'un qui a une petite dizaine d'années d'expérience, 7-8 ans, et très engagé dans l'établissement scolaire sur plutôt des comités de réflexion, et elle le dira, c'est l'extrait que nous avons sélectionné également, c'est aussi cette année, elle a aussi choisi de s'engager plutôt près des élèves et de l'aide aux élèves. Voilà, donc là, je vous présente cela parce que c'est bien entendu aussi des raisons d'agir qui vont, enfin en tous les cas, c'est ce qu'on remarque, hein, en travaillant avec eux, ces raisons d'agir sont évidemment pas innocentes dans leur manière de conduire cet ATP. Voilà. Alors là aussi, l'intérêt, c'est de voir à la fois des manières de conduire qui sont un petit peu différentes chez Frédéric et Alban et par rapport à Virginie. Et bien entendu, c'est de là que va émerger toute la problématique, qu'il y a notamment dans cet établissement autour du A de ATP. Puisque pour aller vite et pour caricaturer un petit peu, il y a les défenseurs de l'aide pour le A, et puis il y a les défenseurs de l'accompagnement. Et là, bien entendu, bon, comme il y a une espèce de sous-prescription par rapport à ce qu'il faudrait, comment on pourrait envisager de conduire ce dispositif, eh bien, on se rend compte au moment des réunions, hein, auxquelles nous participons aussi activement, que les controverses qu'il pourrait y avoir parmi les membres de l'équipe sont finalement davantage sur le mode personnel, c'est-à-dire les gens finissent par s'interpeller sur personnellement et moins sur la manière de conduire ce dispositif. Voilà, ce qui met parfois une ambiance assez difficile dans l'établissement. Une minute d'un extrait de Sarah, juste pour amorcer aussi quand même les raisons pour lesquelles on peut imaginer la mise en place de ce dispositif. Donc Sarah est une élève de 5e, l'ATP dans ce collège existe à la fois en 6e et en 5e. Donc Sarah est très déçue. Voilà, Sarah est très déçue parce que, eh bien, elle a fait tout ce qu'on lui avait dit de faire dans l'ATP, et elle a eu 1,5 à son contrôle de mathématiques. Donc là, très rapidement, je développerai pas. Hein, on retombe un petit peu sur les malentendus que l'équipe d'Escol et de Résultat a déjà beaucoup développé sur la façon dont certains élèves lisent les exigences scolaires. Premier essai, c'est pas très bon, donc voilà, elle a un contrôle de mathématiques, on est dans une salle d'études là, et voilà, elle a fait exactement ce que elle a travaillé en ATP, c'est-à-dire hein, le discours que l'on connaît, très institutionnel, et qu'elle connaît parfaitement, c'est-à-dire j'ai ouvert mon cahier, j'ai lu ma leçon, j'ai appris les propriétés par cœur, puis j'ai refait les exercices les plus difficiles, j'ai même fait d'autres exercices supplémentaires, et j'ai recopié, puisque, bon, ben vous allez voir, il y a quelques consignes dans ce sens-là, j'ai recopié ce que je croyais avoir compris, pour m'assurer que j'avais bien compris, et en fait, ben ça n'a pas marché. Voilà. Donc, à partir de là, on peut regarder un petit peu ce qui se fait en ATP, comment on conduit et quels sont aussi les entraînements que les enseignants fournissent aux élèves. On va arrêter là pour ce premier. Donc, entre Fred et Alban, il y a à peu près la même idée de conduire cet ATP. À la différence près que, donc, Alban, il y a un cahier, chez les élèves, il y a un cahier d'ATP. Donc, Alban, vous l'avez vu, reconstruire le cours autour de comment préparer une leçon et les élèves écrivent. Dans cette espèce d'interaction ou de simulo interaction. Et chez Fred, il y a des fiches. On aura l'occasion là de regarder tout le travail qui est produit aussi par l'équipe, dont des fiches qui sont projetées, vous l'avez vu, par le vidéoprojecteur et qui explique point par point comment réviser un contrôle. Donc, mais globalement, la méthode reste un peu la même. Donc là, quelques extraits, si vous voulez bien, de Virginie. Voilà, donc une autre manière chez Virginie de conduire cet ATP de manière beaucoup plus collective par rapport peut-être au précédent. Enfin, ça, on en discutera peut-être. Et avec aussi ce rappel à la mémoire de ce qui se crée dans les fois précédentes. Alors, ça, c'était une première partie. Là, juste quelques éléments sur à partir des deux outils d'autoconfrontation et d'instruction au sosie. Donc voilà, donc ça c'était bien sûr aussi une manière de voir quelles sont les raisons d'agir et autrement, face à cette absence de prescription, comment et où les enseignants vont puiser des ressources pour conduire ce dispositif. Voilà, donc je crois là deux grands mouvements. Un premier mouvement qui essaye de regarder un petit peu ce qui se fait et la manière dont les enseignants conduisent cette aide au travail personnel des élèves. De l'autre côté, bien entendu, en miroir, comment on essaye de travailler avec les élèves, comment l'activité de l'élève et ce qu'ils en disent peuvent à la fois renseigner les enseignants et travailler sur leur expérience dans ce cadre-là. Et de l'autre côté, ce qu'on voulait aussi vous montrer, c'est finalement cette espèce de chevauchement de dispositifs, les uns à côté des autres. Il y a une multitude, par exemple là sur Vallon des Pins, il y a plus de 12 dispositifs dans le cadre du collège Ambition Réussite. Et il nous semblait intéressant là de peut-être aussi amener cette réflexion sur les dispositifs hors classe, c'est-à-dire finalement les enseignants présents dans le collège sont-ils parfaitement au courant de cette logique, de cette dynamique et de cette politique des dispositifs supposés aider les élèves? Y a-t-il une visibilité suffisante des uns et des autres qui permettent à la fois chez les élèves, parce que vous l'avez compris, évidemment, Sarah bénéficie ou subit, je ne sais pas très bien, mais en tous les cas, elle est présente dans plusieurs dispositifs, donc ça pose un problème pour elle aussi de savoir exactement ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire, selon qu'elle est en aide individualisée, selon qu'elle est en aide au devoir ou en ATP ou en PPRE. Mais c'est un petit peu ce que on disait hier, c'est-à-dire, par exemple, pour Alban ou Frédéric, est-ce qu'il y a, ou Virginie, est-ce qu'il y a des manières manières différentes de faire. Y a-t-il une spécificité propre au dispositif? Alors vous voyez là que ce qui nous paraissait intéressant de regarder et de pointer, c'est que finalement, face à cette absence de mots d'ordre tels qu'ils le disent, ils vont puiser ailleurs, et notamment là on entend chez Virginie et Alban l'idée qu'elle va aller puiser, y compris dans son propre souvenir d'enfant ou Virginie de mère. Hein. Je fais comme je fais si c'était mon fils. Voilà, donc il y a aussi, et elle dit c'est comme ça que je conçois la TP. Et puis, le troisième point qui nous semblait important dans ces dispositifs, c'est comment les gens, finalement, l'équipe d'enseignants est mobilisée autour de cette politique plus large d'ambition réussite, et comment les dispositifs sont-ils perçus les uns et les autres. Donc là, visiblement, chez Virginie, elle souffre de quelque chose d'important, c'est la non-possibilité de travail entre le professeur de maths et elle, c'est-à-dire que de son point de vue, c'est le prof de maths qui devrait dire, il y a des devoirs en maths, est-ce que les élèves le font, comment ils s'y prennent, quelles sont les questions qu'ils posent, ça c'est son point de vue. Et elle dit en fait ça ne se fait pas, et donc je prends en main cette question là, mais surtout ça reste tout à fait clandestin, et il est hors de question qu'elle sache que j'ai utilisé l'armoire pour revenir sur ces questions, parce que si elle savait ça, elle ne serait absolument pas contente. Donc là, on touche aussi des manières de faire et dans la didactique et le pédagogique qui restent des conduites clandestines pour éviter justement d'enflammer la situation. Voilà, en gros, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc il me semble ça offre des pistes de réflexion, bien entendu, à la fois sur ce qu'on y fait dedans en termes de c'est quoi apprendre et c'est quoi aider les élèves à apprendre. Bon, il y a bien entendu cette question... puisque les enseignants nous demandent de les aider à construire, à élaborer un cahier des charges avec eux, qui leur permettrait justement de savoir un petit peu où ils se situent. Donc il y a cette question-là. Et puis il y a la question, je dirais, interpersonnelle, que l'on retrouve finalement de manière récurrente dans les collèges Ambition Réussite, c'est-à-dire ce fameux travail d'équipe. Et là, je dirais que la collaboration, hier on avait fait une espèce de typologie, la collaboration entre les équipes et comment cette collaboration pourrait participer d'une certaine efficacité au double sens dont parlait Fred, c'est-à-dire à la fois pour les élèves mais aussi pour eux, et le plaisir et le confort qu'ils ont dans le métier, c'est une question là qu'on voulait vous soumettre pour un petit peu avancer.
Juste une précision, parce qu'on avait annoncé dans les matériaux présentés les films de l'ATP, des autoconf et l'instruction sosie. Compte tenu du temps, je pense que c'est plus judicieux de passer en travail de groupe, et au moment du retour au collectif, on vous montrera quelques extraits de l'instruction sosie, ce qui permettra de relancer la discussion.
Oui, je crois qu'il y a une question. Oui, donc Virginie, c'est la dernière collègue qu'on a vue, donc qui est professeure de PS, et elle n'est pas professeure référent, mais vous l'avez entendu, elle a un engagement dans l'établissement qui est un engagement à la fois politique, syndical, et qui est très présent dans l'établissement. Et bien entendu, je vous le dis parce que imprégner sa manière de faire et de conduire notamment toute la question de l'aide au travail personnel des élèves. Alban est professeur de lettres modernes. Donc là, l'extrait, on voit l'année dernière, donc quand elle était 1, et là, quand elle était 2. Et Fred, qui a à peu près 13-14 ans d'ancienneté, qui est responsable, qui est professeur de maths et qui est, entre autres choses, responsable du dispositif ATP. Et professeur référent, en sachant que, par exemple, Fred n'enseigne les mathématiques que 5 heures, et les autres heures sont des heures qui sont prévues pour justement assumer ses fonctions de professeur référent. Alban, pareil, n'a que 5 heures de cours en français, et elle est sur l'ensemble, des tas d'autres dispositifs, rupture scolaire, insertion, inclusion-exclusion, voilà, tous ces dispositifs-là très, très nombreux. Alban est néo-titulaire, oui.
T2, oui.
T2, là, cette année, oui. Officiellement, ils choisissent, et après, il se passe ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que pour parfois compléter des emplois du temps, il y a l'obligation d'aller prendre une heure ou deux d'ATP. Et donc là, on a des collègues qui ne sont pas du tout d'accord avec la manière d'envisager cette aide au travail personnel. Et pour eux, donc, ils font soit de l'aide au devoir, soit du soutien scolaire. Donc, ils n'adhèrent pas au projet. Dans l'ATP, voilà, dans l'ATP, ce n'est pas de l'accompagnement éducatif, c'est bien de l'ATP, ça fait bien partie de leurs 18 heures, et c'est bien rémunéré sur leurs 18 heures d'enseignement, oui. Ils ne sont pas sur des profs volontaires de l'accompagnement éducatif. Mais ils font aussi accompagnement éducatif cette année. Alors, bien sûr, l'intérêt sera d'aller regarder hein, ce qui se fait en accompagnement éducatif par rapport à l'ATP. Alors, l'année dernière, c'était 6e, 5e, il y avait donc 17 professeurs. Face aux difficultés que l'équipe a rencontrées, ils ne sont aujourd'hui plus que 14, ils n'interviennent plus qu'en 6e. La formation, bah, c'est Fred qui la prend en charge parce que le principal lui fait entièrement confiance. Donc il le laisse complètement gérer, se débrouiller avec des enseignants qui adhèrent moyennement, qui n'adhèrent pas du tout et qui entendent bien faire valoir autre chose que ce qu'il fait lui. Donc là, on y voit bien entendu plusieurs logiques, plusieurs dynamiques. Et la formation, oui, ce qu'on fait avec eux. Donc c'est un travail, bien sûr, sur le développement de l'expérience et le développement là professionnel, relativement notamment à cette question-là. Mais bon, après, on travaille avec Vincent Valéry, qui est ici présent, donc qui est en charge le dossier de l'éducation prioritaire et avec lequel on réfléchit sur aussi une manière de travailler à la formation des professeurs référents intramuros dans les établissements avec eux et comment le travail qu'on fait de recherche-intervention participe de cette formation. En tous les cas, c'est une direction qui a été prise sur Marseille, qui est en train de se construire. Voilà. Au niveau de la formation, non, hein, vous entendez ce que dit Alban, elle aimerait bien justement qu'à l'UFM, qu'on envisage cette question de formation et qu'à l'intérieur de l'établissement, on puisse poursuivre ce travail-là. Mais sinon, les gens, c'est un peu ce qu'on verra tout à l'heure hein, dans l'instruction au sosie, non, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de texte, il y en a pour l'individualiser, il y en a pour des tas d'autres dispositifs. Là, il n'y a rien, aucun texte, et les gens font comme ils peuvent. Donc, on va apprendre à droite, à gauche, dans les cahiers pédagogiques.